Paul de Gris, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour ceux qui connaissent votre nom, il est grandement en rapport avec le chamanisme, notamment le chamanisme toltèque, Castaneda en particulier. Et donc, on se rencontre aujourd'hui, notamment à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, dont on va parler, mais aussi de toute votre œuvre. Alors, dans un premier temps, moi, j'aurais aimé savoir quel était votre parcours. Comment vous étiez arrivé au chamanisme, finalement ?
Alors, j'ai commencé l'étude et la pratique du chamanisme il y a 32 ans. Je vivais en Espagne et puis j'ai vécu une crise existentielle assez violente, crise de couple, avec un enfant au milieu. Et comme souvent ça se passe dans le chamanisme, une crise existentielle très très forte vous amène à chercher quelque part, je dirais, du secours. Donc moi j'ai pas cherché du secours à l'extérieur vraiment, mais plutôt à l'intérieur de moi, en me tenant le raisonnement que tous les problèmes que j'avais eus dans la vie, j'en étais responsable. J'ai assez vite adhéré à cette idée et je suis tombé sur une communauté espagnole qui enseignait au départ le tantrisme. Ça a été mon premier contact avec la spiritualité, avec le rapprochement avec le corps. Puis ensuite, j'ai continué de travailler. J'ai appris le Tai Chi Chuan, le Qigong, avec un Chinois à Barcelone. Et ensuite, je suis parti en Chine où j'ai passé un an avec le maître de ce professeur de Qigong qui était lui-même un chaman. Donc là, je suis rentré dans des expériences assez fortes pendant un an. Travaillé 10 à 12 heures par jour, en permanence, ensemble. Et c'est un chamanisme très très proche du Tao, parce qu'en réalité, le taoïsme, on lui donne ce nom, la médecine chinoise, le taoïsme qui vont ensemble. Et en réalité, c'est du chamanisme, mais les Chinois ne l'appellent pas comme ça, personne ne l'appelle comme ça. En fait, c'est très très proche du chamanisme, pour ne pas dire c'est du chamanisme. Et donc j'ai passé là-bas un an et je suis revenu en France ensuite. Et là, un peu par hasard, j'ai découvert un livre de Castaneda dans une vieille librairie poussiéreuse du quartier latin. Et j'ai lu ce premier livre, j'ai lu le deuxième, je suis allé jusqu'au neuvième. Je les ai relus plusieurs fois parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de très très fort, de très puissant là-dedans. Mais je ne saisissais pas encore au début tous les cadeaux qu'il y avait là-dedans. Et au fur et à mesure de la lecture, j'essayais de pratiquer tout ce qui était suggéré dans le livre, plus les pratiques que moi j'avais amenées de Taïwan. Et peu à peu, je me suis tout doucement formé, puis j'ai commencé à comprendre les messages cachés, parce que pour moi, ce sont des messages cachés, codés, derrière l'aventure initiatique, qui est très passionnante, très colorée, très pittoresque. Mais ce n'est pas toujours très apparent qu'il y a un enseignement véritablement qu'on peut prendre, qu'on peut recevoir. Et puis au bout de 15 ans, j'ai commencé à enseigner et à écrire des livres.
Alors le praxis de l'œuvre de Castaneda, est-ce que ça passe nécessairement, la porte d'entrée, est-ce que c'est celle des rêves par exemple ?
Il y a plusieurs entrées. Pour mieux m'expliquer, il faut que je vous dise ce qu'est la conscience élargie. Dans le chamanisme, on dit que l'homme a trois champs de conscience. Le premier champ de conscience est celui que nous sommes en train d'utiliser à l'instant même. C'est le champ de conscience qu'on qualifiera d'ordinaire. Le deuxième champ de conscience, c'est ce que les religions appellent l'âme, qui pour les chamanismes s'appelle le corps lumineux, qui est un corps lumineux invisible en état de conscience ordinaire, mais qu'on peut voir en état de conscience élargi. Et le troisième champ de conscience, c'est ce qu'on appelle en langue mexicaine ancienne le nahual. En fait, c'est comparable à la mémoire de tout ce qui a existé et existera dans l'univers, mais dans un désordre total, un chaos, dans lequel on peut pénétrer par l'intermédiaire du corps lumineux. En fait, le corps lumineux, qui est entre la conscience ordinaire et cette grande conscience, immense, infinie, pleine d'informations et d'énergie, qui ne sont pas en ordre, Eh bien, entre les deux, pour passer de l'un à l'autre, il y a le corps lumineux. Donc, pour faire une pratique de conscience élargie, concrète, véritable, il faut d'abord se réveiller à son corps lumineux, se réveiller à son âme. Et pour ça, il y a tout un travail à faire de nettoyage de la conscience ordinaire. Toute notre attention est prise dans la vie moderne, par exemple, à travailler, à fonder une famille, à s'amuser, à sortir, à acheter, à vendre. C'est-à-dire on est absorbé par le quotidien à tel point, et surtout dans une civilisation athéiste comme la nôtre, on n'a plus de temps ni d'énergie pour s'occuper de son âme, de son corps lumineux. Alors, le nettoyage du tonal, c'est de regrouper dans un coin de sa conscience ordinaire tout ce qui concerne la vie quotidienne, la survie, pour garder un peu d'attention libre, pour s'occuper un petit peu d'aller dialoguer avec son corps lumineux. Une fois qu'on a commencé à faire ce travail, le dialogue se met en place. Et l'âme, son rôle, c'est de nous amener pour nous faire évoluer dans la conscience élargie. C'est-à-dire dans ce champ de conscience immense, infini, qu'on appelle la conscience élargie ou le Nagual. En fait, le chaman, c'est quelqu'un qui va travailler avec ses trois champs de conscience, il va faire des allers-retours, il va rentrer dans son corps lumineux, il va aller dans son Nagual, il va revenir, il va s'ouvrir dans sa conscience ordinaire à tout ce qu'il peut récupérer dans la conscience élargie, et puis il va vivre une autre vie. Parce que à quoi ça sert de faire du chamanisme ? Ça sert tout simplement, d'une part, à améliorer son existence quotidienne. On peut guérir, on peut s'auto-guérir avec la conscience élargie. On peut s'épanouir, on peut guérir les autres, même si on veut devenir chaman guérisseur. On peut faire beaucoup de choses. Mais aussi à vivre une aventure que l'homme ordinaire ne peut pas vivre. C'est-à-dire, cette conscience élargie, ce troisième champ de conscience, c'est un territoire sans limite. Et c'est un territoire qui est rempli d'aventures. C'est Christophe Colomb, quoi, hein, en beaucoup plus vaste.
Mais est-ce qu'il nécessite d'être justement dans un état second, c'est-à-dire allongé sur un lit, par exemple? Oui. Ou est-ce que vous pouvez le vivre là, maintenant, on est en train de parler, est-ce que vous pouvez accéder à ce champ de conscience élargie, justement?
En état second, c'est un mot qui ne veut rien dire pour moi. On se fait beaucoup d'images d'épinal sur la conscience élargie. La conscience élargie, au début, on peut la vivre de plusieurs manières différentes. Par exemple, faire du rêve. Vous parliez de faire du rêve tout à l'heure, enfin de rêver. Alors, il y a une pratique chamanique qui consiste à faire du rêve, c'est-à-dire à se réveiller dans ses rêves. C'est-à-dire, on rêve, et puis il y a une préparation de plusieurs mois qui nous permet, à un moment donné, de déclencher la possibilité de se réveiller dans son rêve. Et là, quand on se réveille dans son rêve, on est dans le Nagual, mais il faut quitter son corps. Parce que tant qu'on est fixé à son corps physique, il n'y a pas de voyage véritable. On se réveille dans le rêve, on sait qu'on rêve. On est par exemple dans une maison, on ne reconnaît pas bien la maison, il y a des gens bizarres ou n'importe quoi, un rêve. Vous voyez les fantaisies qu'il peut y avoir dans un rêve. Et là, eh bien, les premières réactions sont souvent la peur. Et on revient, on se réveille. Mais après, on s'habitue, si on persévère, si la peur est mise de côté. Et puis, on va commencer à faire des premiers pas dans le rêve, pour commencer à le vivre délibérément, au lieu de le vivre passivement. D'en faire du rêve, on va savoir qu'on rêve, on sait qu'on rêve, et on va dire, bon, ben, je vais faire ça. On va jouer le jeu. S'il y a un type avec une tête d'éléphant, on va aller le voir, on va lui dire, salut vieux, il a un corps d'humain, c'est un exemple, hein. Il a une tête d'éléphant. On ne va pas s'étonner, on va rigoler avec lui, on va partir se promener avec lui, on va faire quelque chose, on va lui dire, moi aussi, tu peux me donner une tête d'éléphant, n'importe quoi. En fait, dans la conscience élargie, tout est possible. Mais il y faut une forme de volonté et d'intention qu'on appelle justement l'intention. Intento en espagnol, parce que Castaneda a reçu son enseignement en espagnol. Intento, c'est ce qu'on appelle aussi le pouvoir intérieur. Et ce pouvoir intérieur, il va se développer au fur et à mesure qu'on le sollicite. On n'en a pas beaucoup au début, voire pas du tout, mais on va le solliciter en revenant rêver une deuxième fois, puis une troisième fois. Et comme on y va délibérément, on dit, maintenant, je ne vais plus avoir peur du premier réveil, là, etc. Si je vois un type qui vole, je ne vais pas m'étonner, je vais aller voler avec lui, etc. Il suffit d'avoir un tout petit peu de pouvoir, et ce pouvoir va s'augmenter à chaque séquence de faire du rêve. Je dis faire du rêve parce que ce n'est pas du rêve ordinaire. C'est du rêve éveillé, en fait. Mais complètement éveillé. Bon. C'est un exemple de conscience élargie.
Oui, alors bon, pour ceux qui ne sont pas lecteurs, on va dire, de Castaneda, c'est vrai que c'est un peu technique. On peut peut-être revenir à des choses plus concrètes. Castaneda, je sais que dans votre dernier livre, vous en parlez, et vous dites que parmi tous les faits historiques importants, il fait partie du quatrième survenu dans ce monde.
Oui, un grand changement, oui.
Alors, est-ce que vous pouvez développer par rapport à ça ?
Alors, cette quatrième étape de l'humanité, en fait, c'est l'homme peut choisir maintenant même, là, en ce moment, en 2017, dans les quelques décennies qui vont suivre, de s'anéantir lui-même, de s'autodétruire sur la Terre. Ce sont les chamans qui disent ça. Hein. Ou bien de passer à une étape extraordinaire de son développement, qui était prévue pour lui à partir du moment où, en tant que grand anthropoïde marchant à quatre pattes, il a commencé à se mettre debout. Le premier grand événement, c'était de se mettre debout. Et cette étape va être, pour la première fois, grâce à Castaneda, toute la théorie de la métaphysique du chamanisme a été mise par écrit. C'est la première fois. Les chamans, depuis des milliers et des milliers d'années, jamais n'ont rien écrit. Et c'est Don Juan qui l'a voulu délibérément, parce que Don Juan, en tant que chaman, avait une vision de l'avenir extrêmement précise et juste, qui était de dire l'humanité est en train de s'autodétruire par le matérialisme. Le matérialisme, c'est le moyen qu'on a trouvé le plus malin pour s'autodétruire peut-être en 50 ans, là. On n'a plus trop de temps devant nous. Donc l'alternative, c'est d'arrêter le matérialisme, de se réveiller à notre nature qui est spirituelle et non pas religieuse, et de commencer à pratiquer une spiritualité concrète et active, c'est-à-dire accompagnée d'un travail sur soi, et qui exclut les dogmes, qui exclut la religiosité, la para, tout ce qui faisait une fausse spiritualité depuis des milliers d'années avec le monothéisme chrétien. Les chamans, petite parenthèse, considèrent le Christ comme un chaman lui-même, et non pas comme le fils de Dieu, parce qu'on est tous fils de Dieu. Voilà, donc cet événement, ce changement, ce grand changement de l'humanité, c'est que nous devenions, que le commun des mortels devienne un chaman volant, un véritable chaman volant. Ça va être une étape de notre existence.
Mais alors son plan, le plan de Don Juan et donc de Castaneda, il a été réfléchi. L'idée, c'est quoi ? C'était de former des chamans un peu partout dans le monde pour...
Des éclaireurs
pour influer justement sur la conscience planétaire.
Exactement. Les éclaireurs, ce ne sont pas des chamans guérisseurs, ce sont des chamans enseignants qui doivent se montrer exemplaires et qui ont pour but de propager ce message et de motiver les gens pour changer de mode d'existence, c'est-à-dire arrêter le matérialisme qui empoisonne complètement la Terre, qui tue les gens, qui en fait des esclaves encore plus serviles que les seigneurs du Moyen-Âge ne traitaient les êtres humains, les serfs. Et de débarrasser l'humanité de cette vision de très bas niveau de ce qu'est le destin d'un être humain. On a un destin beaucoup plus extraordinaire à vivre. Parce que pourquoi est-ce qu'on aurait été choisi par l'univers à partir d'un monde animal qui avait très très peu de champ de conscience ? Les animaux ont un champ de conscience extrêmement réduit, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas les respecter d'ailleurs. Parce que les chamans sont très écologistes et ont un grand respect pour le monde animal, pour le monde végétal, pour le monde minéral même. C'est des étapes.
La vérité est ailleurs.
Elle est à l'intérieur de nous.
Ah.
Non, la vérité n'est pas ailleurs. Elle est à l'intérieur de toi et de moi. Il faut la chercher, il faut se retourner vers l'intérieur de soi-même.